donc la ligne de conduite du chrétien vient de nous être exposée. Peut-être que certains diront oui. D'un côté, c'est très bien. C'est très bien aussi d'avoir Christ comme modèle et de le suivre de tout cœur. Mais peut-être que certains disent, mais c'est un modèle tellement haut que j'y arriverai pas. Alors, de ce côté-là, il est peut-être utile de revoir quelque chose dans le chapitre 8 de l'Épître aux Romains. On ne va pas développer les chapitres précédents. Rappelons quand même que ce que présente le christianisme va, on pourrait dire, à l'encontre des pensées de l'homme naturel. D'ailleurs, dans ce que notre frère a dit, ça ressort comment l'homme naturel a tendance justement à dire que le choix, c'est entre le laxisme et les règles imposées. Et l'Épître aux Romains, toute la doctrine de l'apôtre Paul, est basée sur la grâce. Alors là aussi, la grâce, c'est, à la fois on dit, c'est tout simple la grâce, puisque c'est, on était pécheurs, puis Dieu pardonne, puis voilà. Mais d'un autre côté, en fait, la grâce est beaucoup plus difficile à accepter qu'il n'y paraît. Et c'est pour ça que c'est dans la dernière épître, celle de Jude, il est parlé du danger de tourner la grâce en dissolution, parce que même que la grâce soit quelque chose de très précieux, il y a tendance à l'oublier, à l'abandonner. Le développement parmi les choses que l'Épître aux Romains développe, on a ces chapitres 6 à 8, et on rappelle notamment le début du chapitre 6, que dirons-nous donc, demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde, qu'ainsi n'advienne, nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Alors, déjà, rien que ce verset est toujours frappant, parce que dans la tentation de dire, on demeure dans le péché puisque la grâce abonde, là où le péché abondait, la grâce a surabondé, on aurait tendance à dire, oui, mais il faut tenir compte de ceci ou cela. Et voilà le point basique que l'apôtre fournit, c'est nous qui sommes morts au péché. Comment vivrons-nous encore dans le péché? Et puis, il lit ça au baptême, verset 3, « Ignorez-vous donc que nous tous qui avons été baptisés pour le Christ Jésus, nous avons été baptisés pour sa mort. » Alors, on a parlé de la mort salaire du péché ce matin, on a parlé de la mort de Christ dont nous nous souvenons avec tout ce qu'elle a de précieux pour nous. Et puis, effectivement, le Nouveau Testament, l'apôtre Paul, présente cette vérité, nous sommes morts au péché. Et puis, comme concrétisation, comme illustration de ce qu'il dit, il prend l'image du baptême, qui est effectivement le point d'entrée dans la vie chrétienne. Alors, on insiste toujours sur l'évangile, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, mais c'est très frappant de voir que là, il est rappelé que l'entrée dans le christianisme, c'est la mort. Et le baptême en est un signe. Alors c'est là où la grâce devient difficile à accepter pour l'homme naturel, même inacceptable, en disant, mais non, mais moi je suis vivant, et la mort c'est quelque chose que je repousse, qui est lointain, et plus c'est tard, mieux ça vaut. Mais non, et voilà que la parole, l'apôtre, nous présente cette vérité que on est mort. Alors, on dirait, mais moi je le comprends pas ou je le vois pas. Mais ça fait partie de ces choses que la parole nous déclare, qu'il faut écouter et qu'il faut recevoir. Alors, je vais pas développer toute cette question de la mort avec Christ et tout le chapitre 6, mais dans le chapitre 7, ça continue, et puis il y a cet aspect de quant à l'homme naturel, on a chapitre 7, verset 14, « Moi, je suis charnel, vendu au péché, Ce que je fais, je reconnais pas, ce n'est pas ce que je veux que je fais. Et puis, on a plus loin ce verset 18 qu'il faut toujours bien se rappeler, chapitre 7, verset 18, « Je sais qu'en moi, c'est-à-dire en ma chair, il n'habite point de bien. Car le vouloir est avec moi, mais accomplir le bien, cela je ne le trouve pas. En moi, ma chair, il n'habite point de bien. » C'est une déclaration, je dirais, encore une fois, je répète, inacceptable pour l'homme naturel. On dit, mais il faut améliorer le monde, il faut éduquer, il faut former, il faut instruire, et on arrivera bien quand même à faire quelque chose de mieux. Et ça, c'est pas seulement le monde civil, profane, le monde, les grandes religions, c'est comme ça. Il faut améliorer le monde. Et cette pensée de dire, on dira, mais c'est négatif ça. On dit aujourd'hui, il faut de la pensée positive. Et puis dire que en moi, en ma chair, il n'habite point de bien, ben, c'est négatif. Alors, on n'en veut pas. Et puis alors, ce fait de cette position, de cet état de choses dans lequel on est comme homme naturel, on se trouve dans un monde, mais ce qui est présenté dans les chapitres 7 et 8, c'est pas le fait que le monde est mauvais, mais c'est au contraire, c'est la déchéance par conséquence du péché. Alors on a ça, chapitre 8, verset 19, la vive attente de la création attend la révélation des fils de Dieu. La création a été assujettie à la vanité. Verset 22, toute la création ensemble soupire et est en travail jusqu'à maintenant. Et non seulement elle, mais nous-mêmes aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons nous-mêmes, attendant l'adoption. Qu'est-ce que c'est ces soupirs? C'est le fait que le croyant, à la fois il se rend bien compte de la déchéance de la création éloignée de Dieu, mais il en soupire à certains égards plus que le monde, parce que le monde garde cet espoir d'amélioration, et le croyant soupire en se rendant compte qu'il y a une déchéance inéluctable due à la présence du péché. Et alors, il y a ce péché qui est autour de nous, qui entraîne la déchéance de la création, puis le péché en nous. Alors, c'est en moi, ma chair, il n'habite point de bien. Et alors, voilà notre frère nous a parlé de délivrance. Et alors, voilà ce chapitre 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. Alors, on voit cette position du croyant dans le Christ Jésus. Au passage, il faut insister pour dire que c'est des certitudes que donne la foi, que donne la parole, elle les donne à la foi, mais faut pas vivre dans l'illusion. C'est pas parce que on est enfant de chrétien que tout est réglé, qu'il n'y a pas de condamnation et qu'il n'y a pas de problème. Il faut que les choses soient nettes et claires, qu'il y ait eu repentance, confession, et c'est un autre sujet. Et alors, cette position dans le Christ Jésus, elle s'accompagne de toute une série de choses. Verset 4, alors verset 2, on est affranchi de la loi du péché, ça veut dire qu'il n'y a plus cette obligation de péché. Alors on dira, mais puisque en moi, en ma chair, il n'y a point de bien, je suis bien, le péché est bien inévitable. Mais c'est chapitre 8, c'est justement pour ceux qui sont dans le Christ Jésus, qui ont reçu le Seigneur, qui ont, verset 2, l'esprit de vie dans le Christ Jésus, alors il y a cet affranchissement, cette délivrance. Et alors, je passe très rapidement sur ces choses, on voit que verset 4, on marche non pas selon la chair, mais selon l'esprit, que verset 5, on a les pensées aux choses de l'esprit, pas aux choses de la chair, et parce que la pensée de la chair est la mort, et la pensée de l'esprit est vie et paix. Alors cette question À quoi nous avons nos pensées, ça c'est quelque chose de très important. Il faut aussi relire l'épître aux Philippiens sur le sujet des pensées. Et alors, dans toutes ces situations, alors on voit qu'on a donc ce privilège de celui qui a reçu le Seigneur par la foi, via chapitre 8, verset 16, l'Esprit rend témoignage, l'Esprit Saint de Dieu rend témoignage avec notre esprit, l'esprit humain, que nous sommes enfants de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu par la parole et par la foi, mais cette conviction intérieure que nous sommes enfants de Dieu. Et alors, du coup, si nous sommes enfants, nous sommes héritiers, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, ça veut dire que Dieu nous donne tout ce qu'il a, et il nous le donne non pas à nous tout seuls isolés, mais avec Christ, on est co-héritiers. Alors, si du moins nous souffrons. Et alors, on a cette description de la situation du chrétien qui, effectivement, il y a des tas de sujets de souffrance. Là encore, dans ce verset 17, c'est relativement vague, mais on a au chapitre 8, verset 35, les choses peuvent aller très très loin, très fort. Tribulation, détresse, persécution, famine, nudité, péril, épée. Alors on dit, mais qu'est-ce que c'est ce christianisme où on a des tribulations, de la détresse, de la persécution, de la famine, et puis voilà qu'il nous est annoncé un héritage, il nous est annoncé cet esprit. Mais il nous est annoncé aussi, alors il y a beaucoup d'autres choses qui nous sont annoncées dans ce chapitre, c'est quelque chose de bien important. On s'est dit, bon ben, si j'ai la foi, il faut au moins que je demande ça à Dieu dans mes prières. Et puis, voilà que nos prières, chapitre 8, verset 26, on se rend compte que même pour les prières, on n'est pas doué, on n'est pas bien capable, nous ne savons pas ce qu'il faut demander comme il convient. Alors, ça veut pas dire qu'il faut pas prier, ça veut pas dire qu'il faut renoncer en disant que, de toute façon, on est incapable de prier, mais c'est au contraire une déclaration assez heureuse de voir que la parole reconnaît notre incapacité, c'est plus que de la faiblesse. Et alors, Dieu y a pourvu. Parce que l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs sait quelle est la pensée de l'Esprit. Et il intercède pour les saints selon Dieu. Alors là, il intercède de la bonne manière. Alors, on est touché parce que on se rend compte que notre incapacité, même comme croyant, même comme enfant de Dieu, même comme étant dans le Christ Jésus, on a une incapacité à savoir comment il faut prier. Et voilà que on a cette consolation extrême, que l'Esprit intercède et on est tranquille, il intercède pour les saints selon Dieu. Alors, on dira, bon ben, d'accord, il intercède, mais les problèmes restent entiers. Et alors, on a la suite. Nous savons que toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, quand on dit, mais comment, au verset 35, il est parlé de tribulation, de détresse, de persécution, de famine, de nudité, de péril, d'épée, et vous allez maintenant dire que toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Eh ben oui. Eh ben oui, parce que, alors, un des exemples les plus extraordinaires qu'on a sur ces questions-là, il y en aura des tas dans la parole, mais l'un des premiers livres de la parole, le livre de Job, nous donne cet exemple. Voilà quelqu'un qui était remarquable, puisqu'il était parfait, droit et craignant Dieu, et c'est Dieu lui-même qui le dit et qui l'affirme, et qui l'affirme en face de Satan. Et voilà que Satan s'acharne contre lui, en le dénigrant devant Dieu, en disant, mais de toute façon, si il est comme ça, c'est parce qu'il y trouve son intérêt, et que c'est, au fond, c'est un hypocrite. Et alors, Dieu lui dit, bon, ben, On va voir si c'est vrai, et il laisse Satan faire. Et alors Satan, il commence par lui prendre tous ses biens, il lui enlève tout son bétail, il lui enlève tous ses enfants, tous morts, et puis, dans une seconde étape, il lui colle une maladie épouvantable, un ulcère, mais un ulcère malin, c'est-à-dire inguérissable, qui se gratte dans tout le corps entier, et puis, comme si ça suffisait pas, il envoie des soi-disant consolateurs qui ont soi-disant de la sympathie, qui soi-disant lui parlent pour lui faire du bien, et qui en fait ne font que envenimer sa douleur. Et alors, comment c'est possible avec des épreuves pareilles, avec des tribulations, détresses? C'était pas de la persécution, mais c'était pire à certains égards. Comment c'est possible d'aller prétendre encore que toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu? Alors, on a ces versets 31 à 39 qui sont d'une tellement grande importance. La première chose qui est dite dans ce verset 31, c'est: que dirons-nous donc à ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alors on a cette déclaration extrêmement importante qu'il faut retenir: Dieu est pour nous. Alors on dira, mais moi je le vois pas, moi je le comprends pas, je vois de la tribulation, de la détresse et toutes sortes de misères, et je vois pas que Dieu est pour nous. Alors bon, il faut revenir à la simplicité et la force de cette déclaration de la parole: Dieu est pour nous. Alors, conséquence, qui sera contre nous, puisque Dieu est pour nous? Et alors, le livre de Job est toujours remarquable à cet égard, c'est que malgré sa conduite irréprochable, parfait, droit et craignant Dieu, il y avait effectivement cette faute de Job, et qui se regardait lui-même, qui n'avait pas accepté que dans le fond de son cœur, il était aussi un pécheur, pouvant dire: en moi, en ma chair, il n'y avait point de bien. Alors évidemment, Job ne disposait pas encore de l'enseignement de l'apôtre Paul, mais en fait, ça revient au même. Au fond, les problèmes se posaient déjà comme cela. Et alors, au fond, Dieu a effectivement travaillé en Job jusqu'à dire: j'ai horreur de moi, de la personne, pas tellement des actes, mais cette condamnation de soi-même qui amène à dire que mon œil t'a vu, c'est-à-dire c'est se trouver dans la présence de Dieu qui fait toute chose bien et que on a tout, que toute bénédiction vienne de lui. Eh bien, ça a été effectivement la grande leçon apprise. Et alors, Job a bien pu effectivement, le livre de Job se termine par effectivement ce toute chose travaille ensemble, par une bénédiction que Dieu donne en surabondance. Alors bon, c'est dans le livre de Job, on est encore dans l'Ancien Testament avec des bénédictions matérielles et terrestres, mais le principe demeure de Dieu qui veut donner. Alors c'est le verset 32: celui même qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Dieu a donné son fils, il l'a livré pour nous tous. Alors, comment ne fera-t-il pas donc aussi librement de toutes choses avec lui tout ce qu'on a besoin? Alors on dira: oui, mais moi j'ai des besoins et Dieu, je lui ai demandé, il n'a pas répondu. Mais Dieu, patience qui nous est demandée, Dieu sait ce qu'il faut donner au moment qui convient, de la manière qui convient, et son propos, c'est un Dieu qui donne. Alors c'est, il est pour nous, et c'est un Dieu qui donne. Et dans les cantique qu'on a chanté, il était question aussi de donner la vie. Mais il donne pas seulement la vie, il donne librement de toute chose avec lui. Et alors on dira, ben c'est beau tout ça, c'est beau, c'est bien gentil, mais moi je voudrais en goûter, j'en goûte pas. Mais revenons à la simplicité de la parole. Et puissions-nous aller jusque, on le verra, c'est la fin du paragraphe, il faut croire ce que Dieu a dit, Dieu est pour nous, Dieu donne, et puis le fin du fin à la fin, c'est on rend grâce. Alors on dira, mais on rend grâce, bon, je rends grâce s'il me donne des choses bonnes. Mais alors, dans le cas de Job, ce qui est remarquable, c'est que, ayant saisi ce que Dieu lui demandait de voir quant à lui-même, il a été jusqu'à être capable d'offrir des holocaustes pour ses amis consolateurs, faux consolateurs, mais prétendus consolateurs. Et c'est Job qui a offert des holocaustes et qui était reconnu quant à lui-même comme agréable devant Dieu. Dieu lui donnait toute chose librement. Alors, verset 33, qui intentera accusation contre des élus de Dieu? Mais Job, il avait eu plein d'accusateurs. D'abord, il avait eu Satan comme accusateur, et Satan demeure accusateur, il est l'accusateur des frères. Et puis ensuite, il y avait tous ses amis qui l'accusaient en disant, ben, de toute façon, avec tout ce que tu fais, tout ce qui t'arrive, c'est évident que tu es dans le mal. Et alors, on a cette déclaration de l'Écriture, qui intentera accusation contre les élus de Dieu. On a la même chose dans Zacharie, quand Satan veut accuser le souverain sacrificateur parce qu'il a des vêtements sales, et Dieu le justifie et le revêt d'habits de fête. Et alors, il y a cette déclaration, c'est Dieu qui justifie, qui est celui qui condamne? Les consolateurs le condamnaient Job, tant et plus, on peut condamner nos frères, on peut les accuser, mais c'est Dieu qui justifie. Alors il a donné son fils, il l'a livré pour nous, il donne librement toute chose, et en plus, il justifie. Mais justifier, c'est pas dire oui, oui, t'avais raison. Il justifie, il donne sa justice. Et alors, voilà que on a affaire à, ensuite, verset 34, c'est Christ qui est mort, mais plutôt qui est aussi ressuscité, qui est aussi à la droite de Dieu, qui aussi intercède pour nous. Alors voilà que ça, c'est un aspect de la mort de Christ qui est extraordinaire, puisque, oui, il est mort. Alors on dit, oui, mais ça, c'est les sacrifices pour le péché, c'est le sang versé. C'est pas de ça qui est parlé. Est-ce que nous aurions, dans toutes les tribulations et les détresses, ben le pire, c'est encore la mort. Et ça, c'est le roi des épouvantements, c'est dit quelque part. Peut-être dans Job, je me rappelle plus où. La mort qui est le roi des épouvantements. Et il y a bien de quoi, surtout quand on sait pas ce qu'il y a après la mort. Et voilà que, de nouveau, la mort, et rappelons que la mort, il y a la mort de Christ, mais quant à nous, nous y sommes participants par le baptême. Alors, voilà que Christ, il est bien mort, mais il en est sorti, ressuscité, vainqueur. Et puis, non seulement il est vainqueur, il a surmonté, mais en plus de ça, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous, en sorte que la mort devient une double ou triple victoire, puisque le Seigneur est ressuscité, glorifié, et il intercède pour nous. Alors on comprend pourquoi même la mort n'est plus un sujet d'effroi. Alors, l'apôtre Paul parlait à des croyants qui non seulement passaient par tribulation, détresse, persécution, j'en ai déjà parlé, verset 35, mais en plus de ça, ils étaient, verset 36, nous sommes mis à mort toujours, ils étaient estimés comme des brebis de tuerie. Alors si on comprend, c'est des expressions pour des chrétiens qui sont dans la guerre ou dans la persécution, on comprend toute la force de ces expressions. Alors, mise à mort, pas seulement un coup, mais tout le jour. Alors le roi des épouvantements en permanence, Brebis de Thurie, voit ces situations terribles dans lesquelles des croyants peuvent se trouver. Et verset 37, « Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Alors c'est des expressions extraordinaires dans le sens que il s'agit pas simplement d'encouragement à surmonter. Il s'agit pas simplement de dire « Attendez un peu, il faut avoir de la patience. » Mais voilà des épreuves où on est plus que vainqueur. Alors on dit « Mais comment c'est possible ?» Mais c'est possible parce qu'il faut revenir à ce verset, de ces versets 31-32, où Dieu est pour nous. Et puis, il nous fait don librement de toutes choses avec lui. Il n'a pas épargné son propre fils, il l'a livré pour nous. Alors, on voit que c'est des dons extraordinaire qu'il a fait. Alors on voit que il peut y avoir plein d'obstacles. Alors les obstacles, c'est bon, il y a la mort, verset 38, on en a déjà parlé. La vie, ça peut être des gens vivants, des anges, des principautés, des choses principautés. C'est s'agit de d'anges méchants là, dans ce contexte-là. Ni choses présentes, ni choses à venir. Il y a plein de choses qui peuvent inquiéter quant à l'avenir. Il y a des puissances, il y a les puissances de ce monde, mais il y a des puissances spirituelles de méchanceté. Il y a des tas de choses, et puis pas des petites, hauteur, profondeur, mais c'est tout des créatures, et rien ne peut nous séparer de l'amour qui est de l'amour de Dieu, qui est dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Alors, ces versets-là, 31 à 39, il faut bien les retenir. Tout ce qui est précédé est vrai. Tous les besoins sur la, en moi, ma chair, il n'habite point de bien. Mais cette position dans le Christ Jésus, position où on peut vivre les exhortations qui nous ont été donné sur la grâce qui nous permet de suivre Christ comme modèle, mais Dieu a tout fait pour nous. Et il a cette intention, ce propos, ce dessein intérieur de cœur de Dieu d'être pour nous. Alors, faut pas continuer à se plaindre.